Cacao.
Quelles sont réelles ou présumées les frasques des politiciens français de ces dernières semaines déchaînent les passions sur Internet et suscitent d'abondantes discussions. De nombreux commentaires en ligne, des tweets ou encore des articles dans certains blogs n'hésitent pas à outrepasser les règles déontologiques en calomniant et parfois même en diffamant certaines personnes. Le Web 2.0 est un monde virtuel où les règles sont floues et les possibilités de dérapage nombreuses. Pourtant, les personnes citées, les personnes derrière, sont elles bien réelles et n'hésitent pas à se défendre. Voilà pourquoi un proche conseiller de DSK, un conseiller en communication, a décidé de porter plainte pour diffamation et injure contre différents médias électroniques, dont le site internet du quotidien L'Union, les sites Electron Libre ou encore Atlantico.fr. Internet et la diffamation, quelle piste pour éviter le n'importe quoi? C'est notre débat ce matin avec Félix Tréguer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission à la Quadrature du Net. Vous êtes avec nous en duplex de Paris. Et à Sion, on retrouve Sébastien Fanti. Bonjour.
Bonjour.
Avocat expert certifié par l'Académie mondiale de l'OMPI en matière de propriété intellectuelle et auteur de l'Alcatraz numérique paru aux éditions Xenia. Sébastien Fanti, justement, les différents dérapages politico-médiatiques français de ces derniers jours montrent bien une chose. Sur le web, on peut se lâcher souvent beaucoup trop.
Oui, alors cette possibilité, elle est liée aux technologies de l'information de manière plus générale. Et ce que les gens ignorent très certainement, c'est que si on se lâche sur le web, ça coûte plus cher que se lâcher dans la rue. On prend souvent des exemples assez simples. Si vous insultez quelqu'un dans la rue et puis qu'il y a ensuite un témoin, généralement, vous allez payer quelques centaines de francs pour l'avoir insulté. Si vous le faites sur le web et qu'on doit ensuite démontrer que c'est vous qui l'avez fait, il faudra faire appel notamment à des prestataires de télécommunications, à des inspecteurs spécialisés de la police. Et là, la facture grimpe. On vient de terminer un dossier ou un email insultant à valuation son auteur, en définitive, une note salée de plus de 6000 francs. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas conscience de cette différence et on leur dit toujours soyez très prudents sur Internet parce que si vraiment des procédures démarrent, ça coûtera très cher.
Une étude canadienne soulignait encore cette semaine que 15% des décisions judiciaires liées au Web 2.0 rendues au Canada et aux États-Unis concernent la diffamation. Un chiffre qui, selon le site ovni.fr, monterait à 49% pour la France. En France, justement, où vous êtes, Félix Tréguer, alors faut-il réglementer un peu plus Internet, oui. Comme le prône.
Moi, il me semble que les condamnations pour diffamation, les poursuites peuvent avoir un rôle lorsqu'il s'agit de faire condamner des journalistes qui sont effectivement astreints à des règles déontologiques en matière d'honnêteté de l'information. Mais il y a une tendance fâcheuse où on voit des simples internautes s'exprimer sur des forums ou des espaces participatifs en ligne, être poursuivis en justice, et c'est là à mon avis une dérive importante parce que des règles pour polisser le discours et garantir l'honnêteté de l'information peuvent avoir un rôle, et encore un rôle lorsqu'il s'agit de domestiquer, de polisser le discours des locuteurs un peu officiels que sont les journalistes, mais lorsqu'on parle d'internautes lambda, je pense que c'est aller trop loin, c'est appliquer des règles qui pouvaient avoir leur sens dans l'univers journalistique, mais qui me semblent pas pertinentes pour les internautes.
Alors pour vous, Félix Tréguer, il faudrait justement réglementer un peu mieux, pas du tout, laisser faire?
Je pense que, j'ai en tête que certaines affaires en France où on a vu par exemple une ministre du gouvernement de Nicolas Sarkozy poursuivre une internaute qui avait laissé un commentaire sur une vidéo hébergé par le site Dailymotion, donc elle traitait la ministre, l'internaute en question traitait la ministre de menteuse. Ou encore Brice Hortefeux, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur ici en France, attaquait certains blogueurs qui relataient des exactions policières et avaient tenu des propos qu'il qualifiait d'outrageants envers la police nationale. Et dans ces cas-là où on a des internautes qui critiquent l'autorité et quand ils sont poursuivis pour outrage ou diffamation, je pense qu'on va trop loin et on voit c'est une manière un peu d'étouffer le débat démocratique. Et donc, au moins pour ce qui concerne ces cas-là, je pense qu'une dépénalisation et un laisser-faire, effectivement, sont pertinents.
Sébastien,
sachant
Fanti.
Que
oui, je vous en prie. Excusez-moi, je vous interromps.
Non, je pense qu'effectivement, une fois que le droit pénal se retire, il y a des logiques de régulation qui se mettent en place, des logiques éthiques. Et après, c'est à chaque internaute de dénoncer, de rectifier les informations malhonnêtes.
Dans le cadre de l'information même. Mais alors, justement, sur besoin de démocratisation, Sébastien Fanti, sur ce qui vient d'être dit par Félix Tréguer, vous partagez cette vision?
Non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le seul moyen d'arriver à quelque chose, alors c'est de mettre en place de nouvelles stratégies. Je vous donne un petit exemple. J'ai pas envie d'aller faire condamner par des procureurs toute la journée des gens qui font des commentaires sur Internet. On a, par exemple, quelqu'un qui émet un commentaire qui est disgracieux à l'égard d'un ministre du gouvernement. On devrait pouvoir le mettre en demeure par email, Donc le procureur devrait pouvoir lui envoyer par email une mise en demeure de retirer immédiatement ce commentaire. On ne devrait pas ouvrir une procédure pour ça. Mais sur le principe, moi je ne suis pas pour l'absence de sanctions et je pense qu'aujourd'hui on va avoir un débat de fond sur la responsabilité des éditeurs. On l'a vu en Suisse avec les commentaires. Moi je suis favorable à ce que les éditeurs soient contraints de filtrer préalablement à toute publication le contenu. On le voit hier, on l'a vu sur le site du Monde, il y avait à nouveau un filtrage très important qui a eu lieu relativement à un débat de fond en France qui générait beaucoup de suspicions. Et donc moi je suis favorable à ce qu'on responsabilise les gens. Si vous publiez, vous êtes responsable.
Un filtrage préalable, est-ce que c'est pas la porte ouverte à la censure et à des dérives qui amèneraient certains contenus qui n'ont rien à voir avec des contenus diffamatoires ou même illicites à être censurés?
Est-ce que techniquement, c'est la difficulté.
Vous pensez que c'est une solution réaliste?
Oui, mais... si ce n'est que pour moi les gens ils se lâchent plus sur Internet qu'ils ne se lâcheraient dans la vie réelle et on doit les éduquer. Le temps qu'on les ait éduqués, ce sera pour la génération future, il faut qu'on puisse sanctionner sans trop sanctionner. Alors on pourrait faire un petit parallèle avec ce qu'a dit Mark Zuckerberg. Moi j'ai pas du tout envie que ce soit ces gens-là qui éduquent mes enfants, puisqu'ils comptent éduquer les enfants grâce à Facebook. Je pense qu'on va devoir éduquer les gens. Alors ce petit rappel à la loi sous forme électronique, c'est-à-dire pas les condamner, qu'ils aient un casier, mais leur dire écoutez, là vous avez dépassé la ligne rouge, ça s'arrête, maintenant vous retirez ce commentaire, quitte à la limite à mettre, comme on l'a vu par exemple pour le cannabis, une petite amende d'ordre, 20 euros d'amende, voilà, vous arrêtez vos bêtises. Moi, je suis pas du tout.
Est-ce que vous pensez concrètement que ça va faire changer aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture sociale et numérique qui est en train de s'installer? Il est presque déjà trop tard pour essayer de la contrer, Félix Tréguer.
Si, effectivement, c'est sans doute trop tard. En tout cas, enfin, on parlait d'éducation. Je pense que davantage que éduquer les gens à polisser leur discours via des sanctions, il faut davantage se porter sur l'esprit critique dont doivent faire preuve n'importe quel citoyen lorsqu'il se rend sur Internet. Et il sait qu'il va être exposé à des discours qui peuvent être potentiellement choquants, exagérés, malhonnêtes, diffamatoires et autres. Mais je pense que chacun doit exercer son esprit critique et reconnaître que sur Internet il y a ce genre de contenu et savoir les repérer. Et c'est à mon avis sur cet aspect qu'il faut faire un effort de formation vis-à-vis des jeunes, faire en sorte qu'à l'école on sache se reconnaître, analyser et déterminer la nature,
à la
qualité d'une information.
Aujourd'hui, Félix Tréguer, le web, on n'arrivera pas, et en tout cas les réseaux sociaux, on n'arrivera pas à contrer, à éduquer tout le monde. Et encore une fois, le terme éduquer est encore un tout petit peu vaste. Il y a un cas d'école récent, avec notamment donc cette fameuse affaire à Marrakech, où l'affaire Ferry, dite Ferry, beaucoup de noms de différents ministres ont circulé, avec une limite à la présomption d'innocence.
Dans ces exemples que vous citez, c'est qu'on a des personnalités politiques qui rentrent dans un jeu avec, qui accusent ou en tout cas. Pour ce qui concerne l'affaire des SK, c'est bien des journalistes d'Electron Libre ou d'Atlantico.fr qui sont des journalistes qui écrivent dans le Figaro et d'autres titres de presse tout à fait honorables qui sont poursuivis. Donc encore une fois, je pense que les règles déontologiques qui s'appliquent aux journalistes doivent pouvoir être appliquées en la matière, enfin lorsqu'il s'agit effectivement de professionnels de l'information. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de l'internaute lambda, je pense que on doit savoir reconnaître que le droit doit s'arrêter être ciblé en tout cas les personnes qui doivent tomber sous.
Est-ce que c'est suffisant, vous pensez, Sébastien Fonty?
Écoutez, pour moi, ce qui me choque actuellement, bon, je travaille aussi beaucoup en France puisque on a un bureau qui est à Paris, donc moi, c'est cette mise au pilori numérique. J'ai jamais vu ça et je pense qu'on ne se relève pas d'une mise au pilori numérique. Qui que ce soit, un ministre, ça peut être une personnalité qui a travaillé toute sa vie, et je trouve que c'est tout à fait inacceptable qu'on n'ait pas des sanctions contre. Alors, je fais effectivement le distinguo, je suis tout à fait d'accord avec monsieur en disant qu'il faut faire un distinguo entre les professionnels de l'information qui ont un devoir de vérification de sources déontologiques, etc., et les autres, mais je suis pour qu'on sanctionne de manière différenciée les deux. Parce que si vous appelez monsieur, je sais pas, X, et que vous êtes le ministre concerné par cette affaire Ferry, et puis qu'ensuite votre nom va sortir dans la presse, que vous soyez coupable ou innocent, c'est terminé, votre carrière professionnelle elle est ruinée, parce que tout le monde va toujours dire si ça a été publié, c'est que quelque part il y a quelque chose de vrai, on voit toujours ce problème. Alors, avant de lancer cette information, puisque c'est un village global en réalité qui va être informé, il faut avoir des devoirs de vérification étendus, notamment en matière journalistique, et on devra peut-être étendre les devoirs du journaliste quant à la vérification
d'informés. Ça, c'est pour le journaliste. On a aussi l'internaute citoyen qui lui va pouvoir tweeter et juste mettre un commentaire en disant est-ce que c'est Douste Blasi ou XY, et
ça n'ira pas.
Et ben le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde est libre de pouvoir le faire. Est-ce que ça va pas? Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Tréguer?
Mais je pense que oui, non, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas. Ça me semble irréaliste de poursuivre tous les internautes, même avec des sanctions.
Codifier le web, comme le souhaitait Nicolas Sarkozy, en disant en ouverture de ce débat.
Mais le web est déjà codifié. Il y a un tas de lois qui s'appliquent déjà à Internet, et c'est faux de dire qu'Internet est une zone de non-droit. Il y a effectivement un problème d'application de certaines règles juridiques à Internet, et c'est notamment le cas des règles qui visent à restreindre la parole et la libre expression, et la diffamation est un exemple. Mais pour tout le reste, le droit s'applique à Internet. Il est faux de dire que c'est pas le cas. Donc effectivement, en matière de propriété intellectuelle, ou plutôt de droit d'auteur, de diffamation et autres interdits de parole, ou en tout cas limite à la liberté d'expression, effectivement, il y a un problème d'application de la règle de droit. Il faut se poser la question, est-ce que ces règles de droit sont toujours pertinentes dans un environnement informationnel qui est radicalement démocratisé, où n'importe qui peut prendre la parole et n'importe qui peut échanger de l'information.
Au niveau suisse, au niveau suisse, Sébastien Fanti, vous êtes d'accord avec le droit qui est suffisant, l'internet est relativement codifié. Donc on a
Est codifié. Il y a juste encore peut-être la question de savoir si quelqu'un qui est victime, ou si un grand nombre de personnes, puisque vous avez parlé du Sony Gate il y a quelques minutes, personnes qui sont victimes de ce type d'action, est-ce qu'on ne veut pas introduire les class action, on est en train d'en discuter pour savoir si les actions collectives ne devraient pas permettre aux consommateurs, parce qu'il faut aussi dire que certaines fois c'est le consommateur qui est lésé, de mieux se défendre. Donc il faudra avoir un débat, mais ce que j'aimerais juste préciser peut-être en finalité, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un média ? Qu'est-ce qu'un média ? Le tribunal fédéral en Suisse l'a très bien dit, pour être un média, c'est pas seulement la radio suisse romande, la télévision suisse romande, c'est tout le monde. C'est les gens qui créent un site et qui font de l'édition sont des médias, donc ils sont autant responsables que les autres. Donc on va étendre cette notion de média, et quand on va l'étendre, on va étendre aussi les droits et les devoirs, et c'est de ce point de vue-là qu'on va réguler automatiquement, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un site ou un bon blog, il est considéré quelque part comme aussi un journaliste sur le tas, si vous me permettez l'expression. On va pas comparer avec des professionnels, mais c'est exactement ce qui va se passer.
Et qui aura la liberté de pouvoir comparer la véracité de l'info. Et tout le débat est là, Félix Tréguier.
Oui, moi je pense que les journalistes doivent s'organiser entre eux, que les professionnels de l'information que sont les journalistes doivent effectivement obéir à un certain nombre de règles, de devoirs et de responsabilités. Ça me semble complètement irréaliste d'attendre de n'importe qui, de n'importe quel blogueur, de n'importe quelle personne inscrite sur Twitter, d'obéir à ces règles, qui font l'objet d'une longue formation, qui est pas toujours suffisante d'ailleurs. Et non, le métier de journaliste est un métier extrêmement noble, qui requiert une vraie formation, une vraie formation aux enjeux et à l'impératif d'information dans une société démocratique. Je crois que c'est vraiment irréaliste d'attendre de n'importe quel blogueur d'obéir à ces règles.
Mais on a entendu dans le journal de 6h ce matin le cas en Corée du Sud où désormais le gouvernement est rentré dans une véritable opération de promotion du respect en ligne à cause des questions de cyberlynchage, ou encore il y a quelques semaines de cela, une journaliste célèbre, une vedette de la télévision coréenne s'est donné la mort tout simplement parce qu'elle avait été lynchée d'un point de vue numérique, ouais. Où elle subissait certaines critiques. Là, on est exactement dans ce cas extrême, et on sait qu'en Corée du Sud, eh bien, il y a une proportion à vivre avec le monde numérique beaucoup plus forte qu'ici, mais qu'on l'aura bientôt ici aussi.
Effectivement, c'est un exemple dont je n'avais pas connaissance, mais je pense que, en l'occurrence, plutôt que des sanctions pénales et des règles de droit appliquées avec un bâton qui va contraindre l'internaute à... Et je pense qu'il faut mettre en exergue des règles d'éthique et d'autorégulation pour permettre... par exemple, récemment, il y a une affaire en France où le blogueur Maître Olas, donc un avocat très connu qui livre des analyses juridiques tout à fait pertinentes, et qui dispose donc d'un compte Twitter, a vu révéler sa véritable identité par un apprenti journaliste d'ailleurs qui tient un site on peut pas l'appeler un journaliste, un site de Rago. Et donc cette personne a révélé l'identité de Maître Eolas, et en réponse, les utilisateurs de Twitter ont reporté son compte comme un compte spam, donc à l'administration de Twitter, ce qui a amené son compte à être suspendu. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est un exemple d'une autorégulation des communautés qui se forment sur Internet, où la communauté en question, la communauté Twitter en l'occurrence, va se fixer ses propres règles et sanctionner, non pas par une règle pénale, par l'application d'une loi pénale, mais au contraire par l'application de certaines règles sociales de bienséance, donc va sanctionner ce comportement. Et je pense que c'est vers ce type d'autorégulation, une autorégulation positive menée par les communautés d'usagers de tel ou tel service, que l'on doit se diriger.
D'accord.
Et effectivement, on doit encourager cela au moyen d'une formation à l'outil.
Fanti, le mot de la fin, vous êtes d'accord sur cet aspect finalement d'autorégulation ?
Non, je pense que malheureusement, moi, je vous donne un exemple très simple. Une jeune fille sur un blog, une autre camarade de classe lui dit « Moi, si j'étais aussi moche que toi, je me suiciderais. » Cette jeune fille a des difficultés personnelles, elle tente de se suicider. La réponse ne peut pas être simplement des règles de comportement.
Elle aurait pu dire ça dans la cour d'école, non ?
Oui, mais la société doit réagir. C'est la même chose que dans la cour d'école, si ce n'est que cette fois-ci, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu. Et puis, le résultat des courses, c'est qu'on a une jeune fille à l'hôpital. Pour moi, l'autorégulation, elle a des limites. Elle a pour limite l'intelligence des gens. Et il ne faut pas partir du principe que tout le monde est suffisamment intelligent pour savoir quelles sont ses limites, parce qu'on n'aurait justement pas besoin d'autoréguler. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui doit intervenir.
Débat de société qui, je l'imagine en tout cas, continuera d'alimenter les médias et que l'on pourra encore une fois mener, j'espère, sur cette antenne. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Sébastien Fanti, ainsi que Félix Tréguer, toutes les
Merci
informations pour écouter cette émission et vos références, c'est sur notre site matin.rsr.ch. 8h31, le générique de fin du journal du matin de cette semaine, au journal et au débat de 8h. Alexandra Bay pour Intercité, Jacques Alamand, Pascal Bénard, Stéphane Delétro, la production du journal du matin, Patrick Chaboudet, à la technique, Caroline Dumoulin, Sandro Lichy, Frédéric Sainte, Mathieu Balmer, à la préparation, Maria Blasco, Chantal Nicolet. L'assistante de production était Cécile Claire, les rédacteurs en chef adjoints Jean-Marc Béguin et Urs Kfeller, le rédacteur en chef Patrick Nussbaum. Il est 8h32, rendez-vous avec l'information et on retrouve Raphaël Aubert.
La Chine est à nouveau dans le collimateur de Google. L'entreprise américaine dénonce une nouvelle attaque de sa messagerie Gmail qui semble venir d'ordinateurs localisés dans la ville chinoise de Xinan. Les pirates auraient volé les mots de passe des messageries de plusieurs clients, dont des responsables de l'administration américaine ainsi que des dissidents chinois. Des accusations inacceptables selon le gouvernement de Pékin qui n'est pourtant pas directement visé par Google. Voilà qui ravive néanmoins le conflit ouvert avec Pékin il y a un an et demi après une affaire de piratage similaire. Il convient pourtant d'être prudent, comme l'explique François Bernard Huyg, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il répond à Yann Lametro.
Le problème, c'est que Google a perdu un tout petit peu de sa crédibilité lors de la précédente affaire en janvier 2010. Google avait d'abord commencé par dire que il agissait au nom des droits de l'homme et parce qu'on avait essayé de surveiller des pro-Dalaï Lama. Et puis en creusant un peu plus l'affaire, on s'est aperçu qu'il y avait eu des interventions dans des comptes Gmail beaucoup plus vastes et probablement derrière une affaire d'espionnage s'adressant à des grandes compagnies américaines. Évidemment, le fait que les adresses, tous au mieux les attaques, soient en Chine ne prouve absolument pas que ce soit des attaques menées par le gouvernement chinois ou par un service chinois. Je rappelle que la Chine étant la plus grande réserve au monde d'internautes, assez logiquement, la plupart des attaques informatiques viennent de Chine. Ça ne prouve pas pour autant une culpabilité du gouvernement.
L'agence de notation Moody's a averti hier le Congrès américain qu'elle pourrait abaisser la note de solvabilité des États-Unis. Et cela si les élus ne parvenaient pas rapidement à un accord permettant de relever le plafond de la dette. L'agence estime en effet qu'il y a un risque de défaut sur les obligations. La dette américaine soumise au plafond du Congrès a atteint à mi-mai la limite légale, soit 14 300 milliards de dollars. Pour l'heure, les négociations entre l'administration et le Congrès sont dans l'impasse. Le Grand Conseil vaudois va empoigner mardi la question de la taxation des parents divorcés qui ont des enfants majeurs à charge. Il va débattre d'une initiative parlementaire déposée cette semaine par le Parti Socialiste. Le texte demande au Conseil d'État d'intervenir à Berne pour permettre aux parents qui versent une pension alimentaire, très souvent des pères, de pouvoir continuer à la déduire des impôts lorsque les enfants à charge atteignent la majorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une bonne initiative pour Julien Duras, porte-parole du mouvement de la condition paternelle Vaud.
Maintenant, c'est clair que les enfants, quand ils ont atteint l'âge de 18 ans, déjà des pères ne sont pas au courant qu'ils ne peuvent plus déduire la pension. Donc, quand ils font leur déclaration, ils ont un retour comme quoi qu'ils peuvent plus la déduire. Donc, dans leurs finances, ils se retrouvent avec des charges beaucoup plus élevées.
Pour vous, aujourd'hui, il faut vraiment que le monde politique bouge pour faire changer cette loi.
Oui, ils doivent bouger parce que c'est discriminatoire, c'est pas normal. Un papa qui est déjà presque sous le minimum vital, voire sous le minimum vital, paye une pension alimentaire et il ne peut pas déduire la pension. Là, il va dans des situations très compliquées, quoi.
Propos recueillis par Laurence Jobin. Notez que ce même mouvement de la condition paternelle vaut compte lancer une pétition au niveau fédéral en collaboration avec les autres mouvements du pays. Tripoli a de nouveau été la cible de raids aériens nocturnes de l'OTAN. Plusieurs explosions ont été entendues, notamment dans le secteur de la résidence du colonel Muammar Kadhafi. Les Péruviens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. Ils doivent en effet choisir entre Ollanta Humala, un ex-militaire de gauche, et Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, actuellement en prison. La lutte sera serrée car selon les derniers sondages, les deux candidats sont au coude à coude. Pierre Bracci.
Le ou la future présidente du Pérou sera sans doute celui ou celle qui aura réussi à convaincre les 20% d'électeurs encore indécis. En effet, la personnalité et les programmes proposés laissent les Péruviens songeurs. Ollanta Humala, par exemple, il a juré avoir rompu tout lien avec Hugo Chavez et a promis pour sa part de nationaliser les ressources du pays. De l'autre côté, à droite, Keiko Fujimori, 36 ans, a garanti la poursuite du modèle économique néolibéral actuel. Mais l'héritage de son père en prison pèsera lourd lors du choix des Péruviens, comme pour Mario Vargas Llosa, Nobel de littérature, homme de droite notoire, qui pourtant soutiendra Ollanta Humala.
Je ne voterai jamais pour Fujimori. Ce serait déshonorant que les Péruviens revendiquent l'une des plus atroces dictature que nous ayons vécue, et dont le responsable, Fujimori en premier, purge en ce moment une peine de 25 ans pour les crimes et pour les vols effroyables commis. Pour ça, je ne voterai jamais pour elle.
Ollanta Humala pourra-t-il se distancer de Hugo Chavez et Keiko Fujimori laissera-t-elle son père en prison comme ils l'ont déclaré? Le choix des Péruviens s'annonce difficile car ils ne le sauront qu'une fois élus au pouvoir.
Sport, tennis, les demi-finales hommes des internationaux de France se dérouleront cet après-midi à Roland-Garros. Dès 14h, elles verront s'affronter l'Espagnol Rafael Nadal et l'Écossais Andy Murray. Ce sera ensuite au tour de Roger Federer d'affronter le Serbe Novak Djokovic, invaincu depuis le début de la saison, soit 41 rencontres. Chez les dames, l'affiche de la finale de demain est connue. Francesca Schiavone affrontera la chinoise Lina. La météo, la journée s'annonce ensoleillée malgré la présence de nuages arrivant du sud. Quelques averses pourront éclater cet après-midi sur les reliefs, principalement dans les Alpes. Il fera jusqu'à 24 degrés sur le plateau cet après-midi, 26 en vallée.